RCF.
Bienvenue à toutes et à tous en direct ou en podcast dans ce 10e numéro de la 7e saison de Côté Ouvert, votre premier rendez-vous de l'année 2023 consacré à l'actualité du rugby sur RCF Pays d'Aude avec la complicité de RCF Pays Tarnais et également diffusé sur RCF Occitanie en DAB+, rendez-vous qui vous est proposé en partenariat avec le site Vibré Rugby. Aujourd'hui, dans notre premier multiplex de l'année 2023. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter une très très bonne année 2023 à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Donc, je le disais, notre premier multiplex de l'année entre l'Aude, le Tarn, le Piémont des Alpes. C'est une très très belle équipe qui s'est réunie. Outre votre serviteur, j'ai le plaisir d'accueillir pour son grand retour dans Côté Ouvert. Il nous avait manqué énormément. Manqué, c'est le sage Luc Fuentes. Bonjour Luc.
Et bonjour, et très heureux de vous retrouver.
Au pied des Alpes, Fred Protin a répondu une fois de plus présent à l'appel. Salut Fred.
Bonjour Patrick, bonjour à tout le monde et très bonne année.
L'indispensable Renaud Sorel a trouvé le temps entre le montage des mouches et les fêtes de fin d'année de nous rejoindre sur l'émission. Bonjour Renaud.
Bonjour à toutes et à tous et meilleurs voeux à tout le monde.
Et bien entendu Manu Duval, notre ami narbonnais, c'est l'hiver, plus de piscine à entretenir, donc Manu est dispo. Bonjour Manu.
Salut Patrick, salut à tous et bonne année à tout le monde.
Et enfin, pour mettre à nom de cette émission, idée de retour GG au doigt de fée, Jérôme Bozon sera aux manettes. Bonjour Jérôme.
Bonjour Patrick et puis bonne année en effet à tout le monde.
Au menu de Côté Ouvert aujourd'hui, nous vous proposons de donner un petit coup d'œil dans le rétro, c'est-à-dire de faire simplement une rétrospective de l'année civile écoulée. Et pour commencer, on va voir qui a bossé son conducteur et qui ne l'a pas bossé. On va commencer par un petit exercice de style. Messieurs, à tour de rôle, j'aimerais que vous nous fassiez partager le joueur, la joueuse qui, selon vous, cette année 2022, a marqué le monde du rugby, que ce soit en Pro D2, en Top 14, niveau international ou pourquoi pas même dans le monde amateur. Allez, on va voir les gens qui ont bossé. On va commencer par Renaud Sorel. Je le vois très concentré, donc je lui tends une perche.
Eh bien, écoute, tu peux m'entendre une, alors. Enfin, j'ai bossé. Oui, j'ai bossé. Quand je reçois les conducteurs, je les imprime et je les lis. Alors, pour moi, c'est une joueuse. Et elle m'a marqué à titre personnel par rapport à l'histoire particulière qu'elle a vécue lors de la Coupe du Monde de rugby qui s'est tenue il y a quelques semaines. Elle s'appelle Jessie Trémoulière, qui était la buteuse attitrée de l'équipe de France avant les changements de staff. Elle a vécu une Coupe du Monde absolument terrible pour elle. On ne saura jamais si elle avait pris le but contre, rappelez-moi, les Black Ferns. La France eût été en finale. Elle a pris sur elle, elle a un petit peu vidé son sac dans un arc, enfin vidé son sac, elle a dit les choses dans un très 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 bon article de l'équipe. On verra les conséquences que cela aura si c'était sa dernière apparition lors du match pour la troisième place en équipe de France ou pas, mais j'ai trouvé, voilà, c'est une fille de l'Auvergne, c'est une fille de la terre. Elle ne s'est pas épanchée pendant la Coupe du Monde par rapport à sa situation très très injuste qu'elle vivait. Elle s'est tue pour le bien de l'équipe de France. Et voilà, j'aimerais qu'elle ait une autre sortie que celle qu'elle a eue en queue de poisson lors de cette Coupe du Monde.
Bel hommage, Renaud. Allez, tiens, Fred, on va voir si Fred, un élève studio, a préparé aussi son ou sa joueuse ou son joueur.
Ah, il met des lunettes, bon, moi, j'en ai, en fait, j'en ai deux, mais je vais être très rapide. Bon, en joueuse, moi, j'ai noté la très bonne performance lors de la Coupe du Monde de la deuxième ligne de Bordeaux, là, Madoussou Fall, qui a explosé, qui a eu un rendement énorme, qui a tiré un peu cette équipe de France par son énergie, par sa hargne, et elle mettait bien l'équipe dans l'avancée. Donc, moi, je voulais lui rendre hommage. Et puis, bien sûr, l'incontournable joueur de Grenoble, Ange Capuzzo, donc là, qui a été élu d'ailleurs révélation de l'année. Mmh, mmh. Et donc, bon, comme vous savez, j'ai fait un article sur lui et j'en ai même fait un chapitre sur mon dernier ouvrage. Donc, c'est le joueur qui a vraiment marqué Alors, l'équipe de Grenoble, bon, certes, mais c'est surtout l'Italie. Donc, l'Italie. Tout le monde a en tête ce fabuleux essai contre le Pays de Galles. Il a récidivé contre les Australiens. Et donc, c'est vraiment un joueur extraordinaire.
Une pépite. Alors, Luc, est-ce que toi aussi, tu as eu une pépite à nous proposer ?
Alors, je vais faire comme Fred. C'est 3 en 1. Voilà. Moi, je voudrais mettre. Ouais. Mais c'est en fait, vous allez comprendre. Pierre Huguet, Maxime Castan et Clément Doumenc.
Carcassonne,
mais c'est surtout aussi l'évolution les clubs de Bayonne, de Montpellier et de Bourgoin. C'est la jeunesse, moi, que j'ai voulu un petit peu parler, parce que je savais qu'un petit peu tout le monde allait prendre de l'international. Je m'en doutais un peu, donc je voulais mettre un petit peu ça. Je voudrais mentionner la très belle perf de Pierre Huguet, en tout cas à Bayonne. Moi, je trouve qu'on voit que lui devant, c'est énorme. Il est énorme et alors il est d'une sympathie extraordinaire. Clément Doumenc qui vit bien aussi à Montpellier, et c'est plutôt pas mal. Et Maxime Castan, voilà, comme quoi on peut faire aussi des trajets un petit peu différents et mettre à l'honneur le national. Il y a pas de problème. Voilà.
Et pour conclure, Manu, ton hommage, ton joueur qui t'a marqué.
Eh bien, je pensais que mes collègues allaient parler d'Antoine Dupont, donc je n'ai pas voulu le prendre, mais bon, c'est pas grave. Alors, la boule de cristal a décidé cette année de faire un peu dans les proverbes. Donc, le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Moi, je vais vous parler un peu de Thomas Ramos. Voilà, oui. Thomas Ramos qui a profité de la blessure de Melvin Jaminet pour nous faire une tournée d'automne quand même assez tonitruante. Hein. J'ai encore regardé un petit peu des bouts de match. Hein. Très bon relanceur, très bon sous les ballons hauts et puis un buteur quasi sans faute. On aura besoin d'un buteur pour la Coupe du Monde. Voilà, capable aussi d'évoluer à l'ouverture tant qu'à l'arrière. Donc, deuxième proverbe, abondance de biens ne nuit pas pour notre cher Fabien Galthié, puisque du coup, ça va lui donner encore plus de choix et de possibilités et des mots de tête pour faire son choix pour la future Coupe du Monde.
Absolument, Manu. Je rebondis sur ce que tu dis simplement pour donner une conclusion à ces hommages que vous avez faits ou ces joueurs que vous avez voulu mettre en avant. Ça nous démontre aussi quand même la richesse, que ce soit au sein de l'effectif féminin ou masculin, du cheptel, avec des gros guillemets du cheptel français. Et ça, à quelques mois de la Coupe du Monde, c'est toujours bon signe. Et si on parlait, tiens, pour changer, Coupe d'Europe. Alors, si on donne un coup d'œil dans le rétro, forcément, on revient un certain 5 mai 2022 dans l'après-midi. Je ne sais pas, messieurs, où vous étiez. Moi, j'étais confortablement installé dans mon canapé où j'ai souffert avec le Stade Rochelais pour, au final, cet essai libérateur, rappelez-vous, d'Arthur Retiéri. Trébuche, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais sa main, elle franchit la ligne avec le ballon. Et alors que tous les bookmakers, tous les parieurs donnaient La Rochelle vaincue dans cette finale de Champions Cup, eh bien, La Rochelle s'est imposée face au monstre, face à l'ogre irlandais de Leicester, 24-21. Alors, est-ce que, comme moi, vous gardez des souvenirs émus de cette victoire? Mais surtout, à quoi attribuez-vous la réussite rochelaise, la Rochelle sur le toit du monde? Allez, Manu, c'est pour toi.
Ah, d'entrée, bon, ben d'entrée, non, mais
sur les appuis, je te prends.
Effectivement, moi, j'avais aussi beaucoup vibré, et puis, je rappelez-vous, on en avait parlé juste avant la finale. J'avais dit que l'importance du lieu, voilà, le stade à Marseille, quand même, qui a fait son rôle sur la fin, bien aidé par l'apport de son banc, le stade Rochelais est allé chercher la victoire. Je suis pas persuadé que dans un autre stade, avec une ambiance comme il y avait à Marseille, ils auraient été la chercher, mais en tout cas, ils ont bien fait, et puis ça prouve que des fois, quelquefois, l'environnement peut aussi jouer. Mais je pense que le banc aussi avait fait la différence sur les 20 dernières minutes dans ce match.
Fred, ton souvenir ou ton explication de cette victoire? La Grinta, le public, l'équipe galvanisée?
Oui, je pense que c'est l'équipe dans sa globalité. Mais moi, je pense que c'est la réussite du président, Vincent Merling, qui œuvre dans ce club depuis des années. C'est un Rochelais de pure souche. Il a été joueur dans ce club et je pense qu'il a mis pas à pas un petit peu il a mouillé la chemise pendant de nombreuses années. Et puis il a construit, il a apporté de la nouveauté, il a apporté un cadre de fonctionnement. Ça s'est fait tout doucement mais sûrement.
Ouais, sans brûler les étapes.
Voilà, sans brûler les étapes, effectivement, et sans crier haut et fort que c'était lui le meilleur, etc. Donc, on l'entend très peu. C'est un président très, très, très discret et qui avance et qui a mis son équipe sur le toit de l'Europe.
Luc, cette finale gagnée par La Rochelle, des émotions, des souvenirs.
Ouais, c'est les 10 dernières minutes sur le terrain. Hein.
Alors, intenable.
Toi, t'étais sur ton canapé. Moi, j'arrivais pas à rester sur le canapé. C'était pas possible. Voilà. Et on savait qu'il y avait un déclic hein, 20 minutes avant le coup de sifflet final. Et on se demandait si ça allait passer. Je sais pas si vous vous souvenez le nombre de mêlées qu'il y a eu, le nombre de tamponnage qu'il y a eu, en fait, ça a été la guerre, ça a été la guerre, et jusqu'à cette vidéo qui vient montrer l'essai final, on s'est là la vidéo, on se disait merde, pourvu qu'elle regarde pas trop le ballon. En fait, si, c'est passé, et là-dessus, ça a été libérateur, et c'était un très bon souvenir, oui, bien sûr.
Renaud, j'imagine, même souvenir, libérateur.
Oui, mais au début, tu la regardes, t'es pro-français parce que t'as envie, oui. En plus c'est un club qui comme le disait Fred, de par son histoire, de par ce travail depuis, je crois bien, pas loin de 3 décennies, son président, qui suscite l'engouement pour, je pense, n'importe quel supporter de rugby français. Puis à la fin, c'est intenable parce que tu passes de la résignation en te disant, bon, ben voilà, les Irlandais, on les aime pas, mais force est de constater que c'est un rouleau compresseur, ils sont imbattables. Voilà, ils sont taillés pour cette Coupe d'Europe, c'est pour eux, ce format-là. Et puis, à la fin, Rétière, tu te dis, est-ce qu'il va voir qu'il a rampé, est-ce qu'il va voir qu'il était tenu, est-ce qu'il va voir qu'il n'a pas posé le ballon. Et puis, ben, il a fait tout ça. Et puis, oui, mais l'arbitre, l'essayer, c'est la 80e, on s'en fout, tu gagnes, et puis terminé. Et le facteur de réussite après, alors je sais qu'il est clivant, mais moi j'aime bien ce personnage, c'est Ronan O'Gara. Parce qu'il a beau insulter leur arbitre, il a beau être à 3657 semaines de suspension. Alors ça se fait pas de mal parler aux arbitres, vous avez insulté. Les enfants qui nous écoutent, il faut respecter l'arbitre, quelle que soit la décision qu'il ait prise, même si c'est trompé. Mais c'est quand même un sacré. Alors il a un côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Là, c'était quand même le docteur Jekyll et il est, un des grands artisans de la réussite du club de La Rochelle.
Et si on se mettait un petit coup de Marseillaise, Étienne ? Allez, aujourd'hui, il y aura 2 coups de Marseillaise. Un premier coup de Marseillaise qui sourit. Parce que comment passer l'année 2022, évoquer l'année 2022, sans évoquer, bien sûr, ce grand chelem 2022 qui nous faisait défaut maintenant depuis plus de 10 ans. Et puis surtout, une équipe de France sur une série de 13 victoires consécutives. Ça veut dire que la dernière défaite, les Français l'ont subie en Australie. On était en juillet 2021, 17 juillet exactement, et 33-30. La tournée des coiffeurs a appelé, on a eu plein de révélations de jeunes joueurs qui sont en plus affirmés. Bon, les gars, j'imagine qu'au-delà du tournoi et du chelem 2022, dans vos mémoires, il y a peut-être d'autres moments marquants pour cette équipe de France. On commence par Luc.
Ouais, alors c'est marquant dans le sens, moi je voulais attirer votre attention sur le dernier match hein, finalement France-Afrique du Sud et ce constat qu'on a tous fait, vous avez probablement dû en parler ici oui. à ces micros, de la violence un petit peu de dans le jeu et dans l'engagement qui moi me pose quand même quelques problèmes pour la suite de notre sport, de notre passion qu'est le rugby. Parce qu'effectivement, les commotions, les choses, ça va être compliqué. Voilà, mais au-delà de ça, une très très belle victoire, bien sûr, sur les champions du monde, oui. À quel prix avec aussi le carton rouge pour Antoine Dupont, là aussi, on peut en parler. Je trouve que c'est 2 poids 2 mesures, même si je comprends, et je remets nullement le carton rouge en question, mais je ne me souviens plus le nom du Sud-Africain qui fait un attentat sur le joueur français. Et le jeu de ballon, c'est pas la même faute, vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, le résultat est toujours le même. Je trouve ça un petit peu bizarre, même si je conçois que les 2 fautes sont. Donc moi, je resterai, pour ne pas tenir trop le micro non plus, sur ce France-Afrique du Sud qui était plutôt pas mal.
Manu, cette équipe de France, pendant longtemps, on se plaignait qu'on n'avait pas les hommes. Là, maintenant, on les a. On en a même trop. Hein. Tu évoquais tout à l'heure Thomas Ramos. C'est abondance de biens ne nuit jamais.
Oui, non, mais moi, j'avais lu l'unité de l'équipe, c'est ce qui fait sa force. Et effectivement, quand on regarde les matchs, quand on regarde, moi, c'est bien entendu la victoire contre les Anglais. Voilà, ça, quand on bat les Anglais, on est très, très content. Mais franchement, une équipe de France très costaud, très solide. Et puis, comme tu l'as dit, hein, avec la tournée des coiffeurs en Australie, on avait déjà eu quelques révélations, ça continue. Voilà, maintenant, il va falloir certainement changer son jeu parce qu'on va certainement être étudié. Donc, on va voir ce que ça va donner en 2023, mais on a de grandes espérances pour la Coupe du Monde avec cette équipe et ce staff.
Renaud, un mental à toute épreuve. On l'a vu sur la tournée d'automne, que ce soit face aux Australiens ou au Sud-Afrique, c'était pourtant mal embarqué. Et cette équipe, elle a aussi cet aspect-là. Elle ne lâche rien des matchs qui auraient été perdus il y a encore quelques années de ça. Elle est capable de retourner. Alors, jusqu'à quand, je ne sais pas, mais elle est capable de retourner les situations.
Oui, oui. Alors, il y a une méthode qui est ce qu'elle est, qui est de la part d'un seul homme, le fameux Fabien Galthié. Alors, c'est vrai que ces interviews, c'est toujours une régalade qui te parle de momentum, de kicking game, d'échelle du temps, de haute intensité. Enfin, voilà. Alors, ça fera rire quand ça perdra et on lui tombera à bras raccourcis dessus. Mmh. Aujourd'hui, force est de constater que ça gagne. Tout est prévu dans un match. Tout est prévu dans un match. Tout est timé de la sortie des vestiaires au temps passé pendant les hymnes. Quoi faire après les hymnes pour pas se refroidir. Alors, ça fait rire, mais pour l'instant, ben, ça fait 13 fois que ça marche. Et puis, a priori, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, effectivement, associé à des jeunes joueurs qui ont été élevés très tôt. Je pense aux champions du monde de moins de 20 dans la culture de la gagne, qui sont dans des clubs où gagner fait partie du quotidien, où la pression semble ruisseler sur leurs épaules. Je pense à Dupont, ou je pense à un Romain Tamac, où tu as l'impression qu'on pourrait annoncer que c'est la fin du monde dans 30 secondes. Bon, mais écoute, je vais finir de ranger la vaisselle. voilà, je vais fermer le placard. Et puis, enfin voilà, c'est impressionnant. Donc, des hommes. Et une méthode qui fonctionne, pour l'instant, c'est le cocktail gagnant.
Renaud évoquait le momentum cher à Fabien Galthié. Il y a un momentum qu'on a tous coché, c'est dans 9 mois. Ça s'appelle la Coupe du Monde 2023. Elle aura lieu en France. Alors, dans un contexte particulier, on ne va pas en parler parce qu'on a fait une émission là-dessus sur un président qui, pour l'instant, est un petit peu empêché juridiquement parlant. Donc, nous, concentrons-nous sur le sportif. Forcément qu'on y pense à cette Coupe du Monde et on ne voudrait pas que, justement, cette série s'arrête pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de notre bonheur, quoi.
Eh bien, bien sûr. Et moi, j'ai déjà coché le 8 septembre 2023, 20h, 21h, je crois, le match, c'est un vendredi. Et donc, on attend ça depuis longtemps, on va dire. Et c'est vrai qu'on a hâte d'y être. On espère tous que ce rugby dont on vient de faire le rappel et qui a montré cette belle série de victoires, j'espère que ce rugby-là continuera de payer. Donc, on verra, on va déjà se rendre compte dans un mois avec le tournoi. Donc, gardons quand même la tête froide, bien calée sur les épaules. Il faut y aller aussi progressivement. Des étapes ont été franchies. On verra. Mais il faut rester optimiste, ceci dit. Hein. Bon, y a quand même, on a quand même une génération de joueurs exceptionnels. J'espère que cette génération-là portera le maillot de l'équipe de France au sommet, là, aussi avec un beau trophée et une étoile sur le maillot.
Et moi, je vous propose une deuxième Marseillaise, tiens. Alors, cette fois-ci, cette deuxième Marseillaise, c'est pour quand même parler de l'équipe de France féminine de rugby à 15. Des filles qui sont troisième dans le ranking de World Rugby, dans le classement de World Rugby. Ces filles qui, malgré, comme l'a rappelé Renaud tout à l'heure, malgré un contexte compliqué, ont fait une Coupe du Monde fort honorable. Mais il y a un fameux plafond de verre qu'on n'arrive pas à franchir. Alors, à l'échelle européenne, ce plafond de verre, c'est qui s'appelle l'Angleterre, où c'est vrai que les Anglaises roulent sur le rugby féminin depuis maintenant plusieurs années de manière totalement hégémonique. Et puis, on l'a vu aussi, alors on s'était enflammé lors de la dernière tournée où les Françaises avaient ratatiné les Black Ferns, et puis les Black Ferns, elles sont sur le toit du monde. Donc, messieurs, sans être, on va dire, trop long, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais... au-delà de l'Angleterre qui est la bête noire du rugby féminin, qu'est-ce qui peut expliquer que ce plafond de verre, on n'arrive pas à le franchir? Allez, Renaud, il a un petit signe.
Allez, un vrai championnat. Un vrai championnat qui tire les filles vers le haut. Pourquoi l'Angleterre roule sur le rugby européen et le rugby mondial? Parce qu'elle a professionnalisé son championnat. Elle a des joueuses professionnelles qui s'entraînent tous les jours, qui sont à l'image des garçons. Donc, il n'y a pas de honte à aller prendre ce qui se fait de très bien ailleurs. Alors, je crois que les internationales aujourd'hui sont sous contrat fédéral, mais quand tu es sous contrat et que tu joues avec des filles qui font les 3-8, j'exagère à peine, qui s'entraîne une fois et demie par semaine, forcément, toi, tu vas traverser le terrain le week-end, mais tu vas te faire arrêter au bout de 10 mètres au niveau international. Donc, tant que et la fédération et pourquoi pas la Ligue se mettront autour d'une table en disant, ben, on crée un championnat professionnel, on aide financièrement, parce qu'on sait que c'est très, très, déjà, on voit comment c'est compliqué de financer du rugby au niveau masculin. Donc, on laisse imaginer ce que ça, la difficulté encore plus grande au niveau féminin. Mais le rugby français féminin ne franchira un cap qu'à partir du moment où il haussera son niveau du championnat domestique. Moi, c'est mon point de vue.
Luc, tu partages ce point de vue, c'est-à-dire qu'une partie de la réponse, elle vient, on va dire, du championnat français.
Oui, oui, bien sûr. Renaud a été très explicite là-dessus, et je pense que c'est un peu dans les tablettes, non, me semble-t-il, de la fédération. Voilà. En tout cas, moi, je voudrais rebondir, en plus de ce que vient de dire Renaud, sur les filles. C'est-à-dire que le potentiel est là. Le potentiel, on l'a. Il y a juste l'infrastructure peut-être à retaillader, et ça devrait le faire, parce que j'allais dire. Qu'avec nos petits moyens, on est troisième. Et je pense que les Blacks ont eu très, très peur. Voilà, donc on a les filles.
Un petit mot peut-être, les garçons, pour les 2 minutes qui nous restent sur les filles, ou même pas une minute à peine, sur des grandes joueuses qui vont nous dire au revoir. Fred, peut-être sur, je passais à Safi Ndiaye, qui est quand même un monument de rugby français, Marjorie Mayence, Céline Ferrer, et puis aussi Laure Sansus, ces 4 joueuses qui ont tiré leur révérence à l'issue de la Coupe du Monde. Elles ont quand même aussi apporté des pièces importantes à l'édifice. Ça a été à 30 secondes là-dessus, pas plus.
Je vais me dépêcher. Alors, Safi Ndiaye, bon, c'est vraiment une joueuse emblématique du progrès de l'équipe de France. Elle a apporté énormément et une joueuse remarquable dans ses attitudes, capitaine. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est une des seules à avoir battu les Anglaises en 2018. Pour oublier que c'est à Grenoble. Laure Sansus.
Ça, c'est fait.
Voilà, là, ça s'est fait. J'y étais, donc je m'en souviens. Ouais. Laure Sansus, pareil, une joueuse très, très, très emblématique. Une joueuse qui apporte beaucoup ce côté rapidité, prise d'intervalle. On sent que c'est une joueuse qui a le ballon, enfin, le rugby dans le sang. Donc, ça, c'est des joueuses, même bon, les autres aussi, hein, comme je n'ai pas beaucoup de temps. Mais il faut leur rendre hommage parce que c'est elles qui ont haussé le niveau de l'équipe de France et qui ont porté ce rugby féminin bien à ce niveau de la 3e place mondiale, et je pense qu'elles peuvent encore aller plus loin.
Ce sont des pionnières. Voilà.
Des pionnières, absolument. Un dernier jingle, parce qu'on va faire un petit quand même coucou au Pro D2. On n'aura pas le temps d'évoquer Mont-de-Marsan comme prévu. On va faire une petite parenthèse sur la belle 6e place de l'US Carcassonne en 2022. Allez, Luc, tu me vois venir. Carcassonne qui était à sa 11e saison en Pro D2, ouais. Et qui enfin décroche une place qualificative, 6e place, non pas du 6e, des bêtises, ils ont fini 5e
oui.
Avec 80 points, ouais, et en même temps ça a été, on va dire, presque un cadeau d'adieu, parce que l'US Carcassonne a aussi perdu des cadres, et on le voit peut-être actuellement sur le terrain.
C'est exactement ça. Donc, tu as fait question et réponse dans le sens où c'est une saison historique.
Merci, au revoir.
C'est une saison historique pour Carca. Effectivement, on a vécu de belles choses. Je pense que c'est une mayonnaise qui prenait depuis quelques années, et des bons gars sont venus, de grands titulaires. Il y avait des grands hommes dans le vestiaire, il y avait des grands hommes sur le terrain. L'envers de la médaille, c'est qu'il y a eu 17 départs entre les deux saisons, et que là, pour le coup, ça devient un petit peu compliqué de refaire un petit peu tout ça. C'est, je pense, aussi la lassitude de notre manager, qu'il exprime un petit peu, même si il y met de la mairie carcassonnaise derrière. Voilà, mais globalement, saison historique. Voilà, j'espère quand même qu'on va pouvoir se sortir de ce mauvais pas dans pas très longtemps.
L'US Carcassonne a quand même les cartes en main, Luc, pour se sauver sur cette phase retour.
Oui, certes, mais honnêtement, j'ai regardé encore les contrats des joueurs, il y a d'énormes, un nombre important et conséquent de joueurs qui sont pas renouvelés, enfin, c'est compliqué. Je vais vous le dire très honnêtement, et ce soir un petit peu au micro, dans les bruits de couloir, c'est assez compliqué, tant dans la tête que sur le terrain, voilà, et dans le staff.
Ça s'appelle la fin d'un cycle, Luc.
Oui, c'est ça.
Ouais. Et cette fin de cycle, il faut qu'elle se bâtisse et elle va se bâtir dès ce vendredi. Et tu seras en commentaire avec Joël et avec Christian pour la réception, c'est quasiment un derby, de Colomiers, donc match capital pour 2023. Jérôme me fait des grands signes, ça veut dire qu'on a grignoté le chronomètre une fois de plus. On va souhaiter, puisqu'on parle de grignotage, un très très bon appétit à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour la suite de nos aventures, cette fois-ci en 2023. Je vois de grands sourires sur ma visio et ça fait énormément plaisir. Je vois Renaud qui est impatient lui aussi d'aller casser une petite graine. Il a très très fait. Chers amis, on se dit à très bientôt sur RCF. D'ici là, soyez à l'écoute vendredi soir de Carcassonne-Colomiers sur Vibre Rugby. Salut à tous.